Bretin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. Cette semaine, c'est le romancier Joseph Denys qui nous accompagne pour un roman au cœur des ténèbres. Vous n'en sortirez pas indemne. Aucun danger en revanche chez Diane Ducret pour la visite de sa bibliothèque. Nous passerons faire une bise à Stan de la librairie Lamartine et puis Héloïse Goy nous rejoindra pour une plongée gastronomique dans la littérature jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix et Livre, c'est parti. Premier chapitre. On avait laissé Joseph Denys dans le Paris du début 20e avec Aimé Grandin, son héros contre des forces démoniaques. Ça, c'était Quand on parle du diable, magnifique roman dont je vous avais beaucoup parlé, souvenez-vous, sur Europe 1. Et quand je dis roman, je parle de vraie grande fiction imaginaire avec ce qu'il faut de rebondissements et d'inventions jubilatoires. Le revoilà, Joseph Denys, j'étais content quand je l'ai vu au courrier, avec « Je suis les ténèbres », toujours chez Julliard, une sorte de variation autour d'un autre grand roman, celui de Joseph Conrad, « Au cœur des ténèbres », matinée d'un soupçon de l'univers de Lovecraft, l'écrivain des monstres de cauchemars. On plonge donc effectivement au cœur des ténèbres dans ce nouveau livre. Bonjour Joseph Denys.
Bonjour.
Votre héros, c'est Kurtz, en fait, l'homme que Charles Marlowe va chercher au fin fond de l'Afrique et qui donne lieu à des aventures au milieu d'une jungle de l'enfer dans « Au cœur de ténèbres » de Conrad. Donc, vous vous êtes demandé ce qui s'était passé pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez voulu jouer avec ce mythe-là?
Ben, écoutez, oui, c'est Kurtz, donc c'est le héros de « Je suis les ténèbres ». Tout a commencé par une relecture d'Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad. Mmh. Et c'est au moment de lire, au moment où Kurtz expire, où Kurtz meurt sur le steamer de Charles Marlowe qui est censé le ramener en Europe. Quand j'ai lu ces deux mots, l'horreur. Voilà, oui, l'horreur, qui sont restés célèbres, il s'est produit comme une sorte de déclic. Et en fait, ça m'a immédiatement fait penser, dans le silence de ma lecture, ça m'a fait penser à Lovecraft. Et je me suis dit, alors c'est parti d'une boutade, vraiment d'une plaisanterie entre moi et moi, plaisanterie, une private joke. Et je me suis dit, l'horreur cosmique de Lovecraft.
L'horreur cosmique, faut expliquer.
Faut expliquer, oui. Alors voilà, bon, il y a l'horreur.
Je voulais venir plus tard, mais allez-y.
Il y a l'horreur, on peut dire, il y a l'horreur chez Conrad qui, quand on lit le roman, arrivé à ce moment-là, on comprend très bien que l'horreur, c'est ce mot qui résume l'expérience de Kurtz au cœur de la jungle africaine.
L'horreur du
parmi
réel.
Les sauvages, parmi les indigènes qui ont fait de lui un dieu. Hein, et c'est l'horreur de l'homme qui a posé les yeux sur les tréfonds de l'âme humaine. Quoi. C'est vraiment... Et donc, il y a vu l'horreur. Et c'est aussi chez Conrad, pour compléter ce que je viens de dire, l'horreur de la folie génocidaire des hommes. Parce que Au cœur des ténèbres de Conrad sort en 1899. C'est une date importante. Enfin, c'est important de la rappeler parce que c'est à ce moment-là qu'éclate en Europe le scandale du caoutchouc rouge. Des massacres et de la barbarie qui est perpétrée par les colons au Congo pour l'extraction du latex. Et donc, c'est aussi l'horreur de la folie génocidaire des hommes qui est motivée par l'avidité. Et donc, ça, c'est bien entendu très, très actuel. Hein. Bon, ben, voilà, donc il y a l'horreur chez Conrad et il y a d'un autre côté l'horreur chez Lovecraft. Alors, l'horreur cosmique de Lovecraft, ça, c'est dit comme ça, ça peut. C'est presque rigolo, non, l'horreur cosmique, qu'est-ce que c'est? Ben, dans les nouvelles de Lovecraft, l'horreur cosmique, c'est l'effroi, disons, qui saisit l'homme quand il prend conscience de son insignifiance à l'échelle de l'univers, quand il se rend compte que finalement, il n'est qu'un grumeau de matière, perdu dans un univers froid, sans au-delà, sans Dieu, et surtout où l'espèce humaine est destiné à s'éteindre dans une indifférence totale. Ça, c'est, enfin, je sais pas, c'est, je crois, la meilleure définition que moi, en tout cas, je pourrais donner à l'horreur. Donc, pour en revenir à ce qui s'est passé quand je suis arrivé à ce passage-là chez Conrad, est-ce que l'horreur cosmique, quel est le rapport entre les deux?
Ces deux horreurs,
ouais. Je me suis posé immédiatement, alors ça m'a fait sourire, parce que bon, c'est une boutade, d'une certaine
Après,
façon.
Après, ce que vous venez de dire, il faut quand même être solide pour sourire quand même.
Ouais, non, c'est pas...
Et passez tous un bon dimanche.
Non, je dirais qu'au second degré, quoi, c'est une question sur le plan littéraire, je dirais presque. Mais en y repensant à deux fois, je me suis dit, mais finalement, c'est pas si incongru.
Pas si éloigné, en fait.
C'est pas si éloigné, parce que Conrad et Lovecraft, chacun à leur façon et chacun de son côté, ont appréhendé deux grandes peurs qui se sont concrétisées au XXe siècle. La peur de la folie génocidaire, d'une part, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler la peur d'une apocalypse, de la fin de l'humanité en tant qu'espèce, qui pourrait être, par exemple, une apocalypse écologique, une apocalypse nucléaire, ou une apocalypse venant de l'espace avec une météorite qui tomberait sur la Terre. On en parle beaucoup.
On pourrait dire qu'il y a une horreur chez Conrad très, très réelle qu'on peut éventuellement envisager, qu'on connaît, même si on ne l'a pas vécu, l'horreur de la jungle, de la barbarie humaine. Et puis de l'autre, il y a aussi Lovecraft et l'horreur des monstres, de cauchemars. Mais on va revenir tout à l'heure à Lovecraft. Restons chez Conrad. Je précise qu'on n'est pas obligé d'avoir lu Au cœur des ténèbres. Ce n'est pas nécessaire pour s'amuser aussi dans ce roman-là, en tout cas vivre ce roman-là correctement. En revanche, il est nécessaire, de manière générale, de lire Conrad.
C'est une bonne idée de lire Conrad.
Mais dans Je suis les ténèbres, votre nouveau roman, nous sommes au Congo en 1888. Quelle est la mission de Kurtz, le narrateur ?
Bien, Kurtz, c'est ce personnage qui, chez Conrad, n'apparaît physiquement qu'à la toute fin du roman et dont on sait qu'il a été envoyé par une compagnie de commerce belge basée à Bruxelles.
Et là, c'est lui qui nous raconte.
Là, oui. Là, c'est Kurtz qui, à la première personne, en fait, l'idée de départ, c'était de faire pendant. Alors, je pourrais aussi expliquer un peu comment l'idée est venue, comment elle s'est développée, mais bon, pour être bref, c'était de d'écrire un récit qui fasse pendant au témoignage de Marlowe. Parce que Au cœur des ténèbres de Conrad, c'est un récit à la première personne. C'est un témoignage de Marlowe, de ce que Marlowe a vécu.
Qui se souvient comment il est allé chercher Kurtz au fin fond de l'Afrique.
Exactement. Mais c'est un récit qui est très lacunaire. Parce que, par exemple, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé réellement au cœur de la jungle. Tout ce qu'on sait du personnage de Kurtz dans le roman de Conrad, en fait, ce sont des oui-dire, des témoignages qui sont sujets à caution.
Indirect.
Et finalement, le témoignage de Marlowe lui-même est sujet à caution. Et donc, je me suis dit que toutes ces lacunes, entre guillemets, parce que c'est des lacunes qui font la force en fait, du récit de Conrad, toutes ces lacunes me laissaient vraiment une ample marge de manœuvre pour construire un récit fantastique dans les règles de l'art, bonne et due forme, avec de l'action, du suspense et des événements étranges, et voilà. Et donc oui, c'est Kurtz qui, pour en venir à lui, qui m'a servi de pivot.
Qui est parfaitement sain d'esprit au début de votre roman.
Qui est sain d'esprit, oui, plus ou moins. Mais qui est sain d'esprit.
Qui est abîmé par la vie, mais en tout cas qui parle correctement, qui est donc envoyé au Congo par les autorités belges pour justifier d'une certaine manière la colonisation avec un point de vue philanthropique et avec des visées humanistes pour rendre humains tous ces barbares.
Exact, oui. Donc il a une double mission, Kurtz, en arrivant au Congo. La première étant de collecter l'ivoire, l'or blanc à sa source, qui était la matière première en 1890, avant le caoutchouc. Donc de collecter l'ivoire à sa source au cœur de la forêt. Et sa deuxième mission étant de décrire ce mémoire sur l'abolition, la nécessité d'abolir les coutumes barbares en Afrique. C'est un mémoire qui a une inspiration philanthropique. Et donc Kurtz, au départ, aussi bien chez Conrad que dans Je suis les ténèbres, représente un peu... ce que la société, c'est le meilleur visage de la société occidentale, de la colonisation. Il réunit, je précise aussi que c'est un poète, c'est un peintre. Chez Conrad, on apprend aussi que c'est un musicien. Et donc, c'est une sorte de figure d'humaniste. Et tout ça va brutalement changer dès qu'il va mettre les pieds en Afrique.
Et il s'enfonce jusqu'à Léopoldville et ensuite au cœur de la jungle. Et c'est là que tout va commencer. On y revient dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Joseph Denys pour Je suis les ténèbres chez Julliard, une variation autour du roman de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, donc au 19e siècle, dans la jungle d'Afrique noire, mais qui a été transposé au Vietnam et au 20e siècle dans un film bien connu. « Apocalypse Now, bien sûr, de Coppola. En fait, c'était ça, le talent de Conrad, raconter une histoire qui peut se dérouler et se transposer en tout lieu et en tout temps.
Oui.
Parce qu'Apocalypse Now, c'est une adaptation, en fait, du roman de Conrad, au cœur des ténèbres.
D'ailleurs, l'opération à laquelle je me suis livré dans Je suis les ténèbres est semblable, d'une certaine façon, à celle qui a fait Coppola.
C'est une autre transposition.
C'est une autre transposition.
Une variation. Et alors donc, on suit Kurtz, qui est envoyé par les autorités belges au Congo pour donner la bonne parole colonialiste. Il décide de s'y enfoncer aussi pour faire fortune et pouvoir enfin épouser Virginia, qui appartient à une certaine frange de la société. Mais en chemin, il vend son âme. Et je vous lis un passage. « La fin justifiant les moyens, j'imitais le bourgeois et me coulais habilement dans le moule concave de sa bêtise. J'adoptais ses poses, fis mien ses goûts et brillais dans ses conversations de veau cultivé, assumant tout ce que cela comportait d'aveuglement volontaire et d'avachissement de l'âme. » Il y a quelque chose de faustien aussi dans votre roman. Là. C'est un type qui est en train de vendre son âme.
Indubitablement, oui. Il est en train de vendre son âme. Bon, ben... Dans le roman, au départ, Kurtz, j'ai reconstruit, même construit, pardon, le passé du personnage dont il n'est jamais question chez Conrad, ou très peu. Et donc, au départ, c'est un artiste, c'est un pote, c'est un humaniste qui, par nécessité et par amour aussi, va finir par vendre son âme, par se compromettre avec des idéaux et une société que lui-même aborde d'une certaine façon.
Et donc, il s'enfonce dans la jungle, il va vendre son âme petit à petit parce qu'il a besoin d'argent, il veut par amour aussi faire fortune, etc. Mais aussi, l'environnement qui l'entoure et qu'on découvre est horrifique. Et donc, son âme s'égare d'elle-même d'une certaine manière.
Oui, oui, c'est que, en fait, il se barre de ses idéaux philanthropiques, humanistes, au point que tous ceux qui l'entourent, la société qui l'entoure, voient en lui leur champion. C'est pour ça qu'on l'envoie au Congo, pour affirmer le bien fondé de la philanthropie. Mmh. Et lui, dès qu'il arrive en Afrique, il est tout d'abord confronté à la médiocrité des colons qui sont là, la médiocrité et à la brutalité aussi dont ils font preuve, ces colons, envers les autochtones.
Et il se rend compte que lui, il leur ressemble beaucoup en plus.
Il leur ressemble beaucoup, oui. C'est d'ailleurs ce qui l'afflige le plus. C'est ce qui l'afflige le plus, en fait. Et donc, il y a une sorte de lutte contre lui-même qui s'engage et qui va, au cours du roman, s'aggraver de plus en plus.
Parce que déjà, au départ, il est un peu fragile psychologiquement. Il y a un petit flashback qui nous montre qu'il a eu des gros problèmes avec ses camarades d'internat et que notamment, il est en proie à des crises de somnambulisme assez graves, au point que, y compris de nos jours, quand on lit le roman et qu'il en parle, il est obligé de s'attacher les pieds, de se ligoter et de se bâillonner avant de dormir.
Oui, il a eu une enfance très traumatique, c'est ce qu'on découvre aussi. Et donc, il est somnambule, il est sujet à des terreurs nocturnes depuis toujours. Et ça, bien entendu, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de spécial. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir à la fin du roman, donc je ne veux pas en dire plus, c'est la raison profonde, en fait, de sa présence en Afrique. Mmh. C'est pour ça qu'il a été attiré. Il y a quelque chose de mystérieux qui est de l'ordre de la destinée, je dirais. Et on rentre peut-être dans la partie un peu plus lovecraftienne du...
On va revenir à la partie lovecraftienne, mais juste avant, il croise, il y a au Congo des colons économiques, si on veut, politiques, mais il y a aussi des scientifiques, des explorateurs scientifiques de l'époque qui viennent découvrir de nouvelles espèces. On va en parler tout de suite de ces scientifiques, mais quand on les rencontre, nous, dans le roman, ils reviennent d'une expédition où ils sont plus que deux sur une expédition de 5 ou 6, et tout le monde est mort, quoi. Et c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Qu'est-ce qui les motive, ces scientifiques ?
Ben, je pense.
On sent que vous êtes documenté aussi.
Oui, j'ai beaucoup lu. Bien entendu, j'ai beaucoup lu parce que l'idée du roman m'est venue, mais ensuite il s'agissait de se documenter. Donc j'ai lu par exemple le livre d'Adam Hochschild sur les fantômes du roi Léopold, hein, surtout le scandale du caoutchouc rouge au Congo, mais aussi beaucoup de récits de première main d'explorateurs, d'aventuriers de l'époque,
de mémoires,
qui sont heureusement maintenant, merci Internet, tous disponibles sur Gallica, sur le site de la BNF. Et là, j'ai découvert des choses vraiment, vraiment extraordinaires, vraiment très intéressantes. Et à l'époque au Congo, il y avait des chasseurs de fauves, il y avait des aventuriers, il y avait des mercenaires, il y avait aussi des scientifiques qui étaient motivés par l'amour de la science, tout simplement, parce que c'était un continent, une nouvelle planète à découvrir, tout simplement. Et aussi par l'amour de la gloire, il faut bien le dire. Enfin, chacun...
D'avoir fait la grande découverte scientifique, d'avoir découvert le spécimen que personne n'avait jamais vu.
Voilà, oui. Donc, des scientifiques de tous horizons. Des paléontologues, des naturalistes, des géographes, des ethnologues. Et donc, oui, et ben souvent, toutes ces pérégrinations dans ce continent hostile se terminaient mal, très mal. Alors, ça pouvait être des rencontres avec des tribus ou des indigènes hostiles, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent, les maladies de tout temps, quoi. Depuis l'arrivée des Portugais, ce qui a fait barrière à l'exploration de l'intérieur de l'Afrique, c'était ces maladies qui étaient absolument terribles.
Alors, jusqu'à maintenant, mais je précise qu'on est encore au début du roman, on doit être page 30, on est très dans les pieds dans le réel, donc dans la jungle, avec les moustiques, la politique, l'économie, les scientifiques. Et donc, notre héros, Kurt, rencontre James Morrow, qui est un scientifique qui donc revient d'une expédition. Et ils deviennent amis et ils décident de partir ensemble pour la nouvelle destination après Léopoldville, vraiment au cœur de la jungle, pour que James découvre, lui, d'autres espèces et puis que Kurt, lui, fasse son travail plus politique et puis aussi ramener de l'ivoire. Mais dans la maison de James Morrow, un jour, notre héros découvre une espèce un peu étrange, une sorte de tentacule vivante dans un bocal. Très, très étrange et tout à coup, mais juste une petite touche pour l'instant. On bascule dans un truc.
Oui, c'est là que ça bascule.
Beaucoup moins réel.
C'est là que ça bascule. Et c'est là que le récit, qui au début est très conradien, forcément, parce que je raconte l'histoire de Conrad au début, vu d'un autre point de vue, vu à travers Kurt. Mais il y a un moment où l'affaire devient plus Lovecraftienne. Et c'est exactement à ce moment-là que ça bascule. Oui. James Morrow a fait une découverte. Et on ne sait pas très bien quoi au départ, si ce n'est qu'elle est très inquiétante. Il y a ce spécimen, donc pour ce, c'est pas bien, si ça, c'est un
spécimen
végétal, animal, on ne sait pas trop.
Mais tout à coup, il bouge dans le bocal. Et donc l'histoire bascule, et nous, on bascule aussi un peu dans la folie. On y revient dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre continue toujours avec Joseph Denise pour Je suis... Les Ténèbres, c'est chez Julliard, roman incroyable, aventure, romanesque, imaginaire, à la fois très Conrad, au cœur de la jungle africaine, et en même temps avec un côté tout à coup Lovecraftien, c'est-à-dire les monstres de cauchemars comme ça qui font irruption dans le réel. Et je le disais, c'est le héros de Conrad, enfin l'autre héros de Conrad, qui est votre héros à vous principal, Kurt, bascule dans la folie. Et dans le roman aussi, il y a un moment où on commence à basculer tout doucement dans la folie. Est-ce qu'en écrivant, on devient un peu fou aussi, dans ces moments? Est-ce que vous avez eu des moments de transe un peu comme ça? Ou est-ce que vous étiez fou avant ou...
Un peu des deux, je pense. Non, mais oui, forcément, on essaye toujours, quand on écrit, d'accompagner son personnage et de se mettre dans sa peau. Donc, avec Kurt, c'était particulièrement intense, parfois, de se mettre dans la peau d'un homme qui est arrivé, qui a ouvert les yeux au cœur des ténèbres. Forcément, c'est très abstrait, quand on écrit confortablement chez soi. Mais on est forcé de se poser des questions, je dirais, métaphysiques, existentielles, un peu plus vastes, pour voir un peu si c'est pertinent, tout simplement, ce qu'on écrit. Quoi. Et vous parliez de moments de transe, d'une certaine façon, oui, mais au tout début, quoi, justement, quand j'ai eu cette idée, un peu biscornue, à deux cornes, de décrire un récit Lovecraftien à partir de Conrad, vraiment, j'ai eu une sorte de... une avalanche d'idées, une foule d'idées qui se sont présentées, quoi. Tellement que pendant deux ou trois jours, j'ai rien fait d'autre que de les noter, vraiment de noter des idées de tous les ordres. Et là, vraiment, c'était très, très intense. Après, quand on commence le travail d'écriture, c'est un truc plus laborieux, en tout cas pour moi. Là, il faut se discipliner, il faut faire un choix. C'est beaucoup plus rationnel.
Mais est-ce que ça vous échappe, ce côté très, très romanesque? Je le disais, quand on parle du Diable, votre dernier roman, dont j'avais beaucoup parlé, j'en avais beaucoup parlé parce que, justement, au début, ça commençait très visite de Paris dans les années 10-20. Mmh. Et puis, tout à coup, paf, il y a des monstres qui surgissent. Alors, on s'en doute parce que le titre, parce que tout un tas de choses, et puis des éléments comme ça, petit à petit, mais comme si vous refusiez d'être tout à fait dans le réel, quoi. comme si vous pouviez pas faire un roman historique sans y mettre un peu de folie et un peu d'imaginaire très très fort, quoi.
Oui, ben le
faire du pur roman, quoi.
Tout mouvement, enfin toute écriture, je pense, part de l'imaginaire. Hein. On difficile de sortir de là, même si on écrit des romans réalistes ou naturalistes, ça part toujours de l'imagination, de cette faculté qu'on a de se figurer les choses.
Mais vous poussez les curseurs très très loin, c'est ce que je veux dire.
Oui, j'aime bien. Enfin, pour moi, les démons font partie du réel. Enfin bon, entendons-nous. Hein, ce que je viens de dire, c'est à faire. Ça prend avec des pincettes.
Symboliquement.
Symboliquement, ouais. Oui. Mais je dirais que c'est ma tasse de thé, quoi. Je veux dire, quand on parle du diable, les démons étaient des incarnations de des forces inconscientes qui contrôlent les êtres humains, aussi bien les individus que les sociétés, que les communautés.
Oui, là, c'est la même chose, en fait, dans celui-ci, dans Je suis les ténèbres.
Oui, voilà, tout à fait. Oui. C'est au fond le même thème.
Une manifestation de la barbarie humaine, quoi.
Une manifestation de la barbarie humaine, et il y a toujours ce thème de l'inconscient qui est présent et qui sert de fil conducteur à l'intégralité du récit.
Dans cette troisième partie, on a l'habitude de pousser la porte de la cuisine de l'écrivain, s'il veut bien nous l'ouvrir, pour voir comment vous travaillez
volontiers.
Et alors, juste avant d'allumer les micros, je ne vous connaissais pas parce que j'avais parlé de votre précédent livre, mais sans vous interviewer. Et en fait, vous m'avez dit tout à l'heure que vous viviez à Florence.
Oui.
Comment vous écrivez là-bas? Vous avez votre bureau? Vous travaillez par ailleurs sur autre chose? Comment ça marche?
Non, bah j'écris, j'ai pas de bureau, j'écris chez moi, donc j'ai pas de pièce ou d'endroit dédié à l'écriture. J'aime beaucoup écrire dans ma cuisine, donc quand vous dites oui, ouvrir la porte de la cuisine, bah, ça a toujours été un endroit qui, c'est très chaleureux, c'est très ramassé, c'est près du frigo. Et il y a quelque chose qui de très intime dans une cuisine.
Mais ça a toujours été le cas, ou c'est votre cuisine à Florence qui est particulièrement charmante?
Ben, disons que dans la mesure où... Oui, non, c'est ma cuisine à moi, oui. Enfin, elle n'est pas particulièrement charmante, elle n'a rien de spécial. Mais en général, j'aime les cuisines. Même les bonnes discussions, quand elles ont lieu dans la cuisine, elles ont une saveur particulière. Enfin, je ne sais pas si c'est...
Oui, les fêtes parallèles qui se passent dans la cuisine.
Voilà, par exemple. Oui, la cuisine, c'est un lieu particulier, quoi, qui est propice. Enfin, personnellement, je m'y sens bien.
C'est aussi là, souvent, aujourd'hui, de nos jours, où on peut fumer aussi. Donc, ça crée des clans comme ça de fumeurs aussi dans les cuisines.
Ça,
bon,
ça crée des liens.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Florence?
Ben, écoutez, je...
Vous êtes français?
Je suis français. Donc, j'ai ce défaut, ou cette qualité en fonction. Enfin, c'est ce qu'ils me disent les Italiens. Tu as ce défaut d'être français en général. Moi, je suis d'origine italienne. Hein. Donc, ça peut expliquer aux auditeurs en grande partie pourquoi je vis à Florence. Donc, hormis l'écriture, je travaille en tant que scénariste, parfois, en tant que concepteur-rédacteur. Donc, je travaille toujours. En fait, l'écriture est toujours au centre de mes activités, d'une façon ou d'une autre. Pour un médium ou un autre, c'est toujours l'écriture qui me passionne.
Et pour les romans, c'est à l'ordinateur ou c'est au stylo?
C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. J'essaie de travailler, d'écrire, de faire un premier jet écrit sur ordinateur, sur traitement de texte. Mais je me rends compte que la qualité de ma concentration est moindre. Les deux méthodes, à la main ou sur ordinateur, présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc souvent, quand je me lasse de l'écran, parce que c'est très fatigant, j'écris à la main. Parfois, beaucoup de pages, de nombreuses pages. Et là, je me rends compte que, même si c'est plus long, forcément, j'ai une meilleure qualité de concentration. C'est probablement quelque chose qui personnellement, que je rattache à cette sensation que j'avais quand j'étais enfant et que je dessinais.
Ah oui.
Ouais, c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose dans la main, de griffonner, qui me rappelle ces moments de concentration absolue qu'on a quand on est enfant et qu'on se met à dessiner quelque chose qui envahit votre imaginaire. Comme ça.
Et vous avez une discipline d'écriture pour les romans, puisque vous avez plusieurs travaux d'écriture, scénarios, etc. Pour les romans, est-ce que c'est de 9h à 11h dans la cuisine ou est-ce qu'il y a des horaires très spécifiques?
En général, c'est le matin.
Jours,
en général, c'est le matin où chacun a ses, je pense que ses cycles et ses rythmes très personnels. Hein. Moi, c'est le matin.
C'est bien d'écrire le matin pour ce que vous écrivez, je pense. Parce qu'au cœur de la nuit...
Ouais, non, j'écris pas la nuit. La nuit, je dors
peur.
En général.
Vous empêchez les autres de dormir, bravo.
J'espère.
Je suis les ténèbres, l'Odyssée sombre de Kurtz. C'est chez Julliard. Restez avec nous, Joseph Denis. Dans un instant, nous partons visiter la bibliothèque de Diane Ducret.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre, de retour avec Joseph Denise pour Je suis les ténèbres chez Julliard. Il est l'heure de visiter une bibliothèque, celle de Diane Ducret. Aujourd'hui, l'écrivaine essayiste romancière publie un nouveau livre, Le Maître de l'Océan chez Flammarion, l'histoire d'un jeune orphelin qui a tout perdu et qui traverse les mers. Qu'apprendra-t-il au milieu de l'océan? C'est ce qu'on appelle un conte philosophique et on comprend quand on visite la bibliothèque de Diane Ducret. Bonjour Diane Ducret.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On s'est manqué parce que plusieurs fois, je vous ai demandé si je pouvais visiter votre bibliothèque et vous m'avez dit oui, mais non, parce que ma bibliothèque, c'est dans ma salle de bain, donc j'ai pas trop envie. Et puis finalement, on a réussi et me voilà. Et alors, oui, il y a des livres dans la salle de bain, je suis allé voir avant d'allumer les micros, et dans l'entrée, on va en parler, mais dans le salon aussi quand même, là on est dans votre salon, et il y a des livres sur un très beau meuble d'ailleurs, en vieux bois comme ça, un peu flotté, je ne sais pas ce que c'est.
Des palettes.
Des palettes.
Des palettes qui viennent de Rungis.
Magnifique, très très beau meuble. Et donc il y a tout un tas de livres dessus, mais vous m'avez prévenu d'entrée. J'ai pas de roman. La romancière n'a pas de roman. Qu'est-ce qui est, pourquoi ?
J'ai honte. Vous comprenez à présent ma perfidie. Non, je lis peu de romans, c'est vrai. J'aime en écrire, j'aime imaginer des scénarios. Néanmoins, je n'aime pas forcément en lire. En tout cas, j'ai peu d'appétence pour le roman contemporain. J'aime lire des biographies, des livres historiques, des essais médicaux. C'est très particulier et c'est une sorte de perversion intellectuelle certainement, et des livres de philosophie, puisque ça a été ma formation. Et donc j'ai chassé tous les romans de ma bibliothèque, j'en ai renvoyé certains en province, et je me suis passée des autres.
Mais oui, parce que vous avez une de mes malédictions, c'est-à-dire une maison secondaire où il y a beaucoup de livres.
Oui, c'est vrai. Alors,
dans laquelle je ne peux pas aller.
C'est vrai, pour l'instant, mais la côte basque vous tend les bras. Non, il y a aussi que je me suis débarrassée de beaucoup de livres, donc c'est vrai que ça fait très
comment
nu.
Se débarrasser
suite à mes études de philosophie et de lettres classiques, j'avais acheté énormément de livres dans mon précédent appartement qui était un tout petit deux pièces, et j'aimais vivre avec eux, et puis ils m'ont colonisé au point que finalement un jour je regardais tous ces noms, toutes ces choses à connaître, à se rappeler et ces univers qui restait à découvrir, j'ai eu l'impression d'être complètement écrasée par eux. Je ne pouvais plus rentrer dans la pièce. J'ai l'impression qu'ils me regardaient, ne pas en faire assez, ne pas me donner assez.
À moi.
Oui, c'est ça. Et donc, je me suis débarrassée d'eux de manière absolument violente. Ça a été une Saint-Barthélemy des livres.
Ouf.
Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que...
Allez-y doucement, mais racontez-nous.
Ah ouais, je les ai passés un par un en revue. Alors, c'était avant... Cette fille qui s'appelle Marie Kondo, qui a développé une méthode de rangement. Donc c'était avant, et en fait je les ai, donc j'avais à peu près 1000 livres.
Mais c'est pour les chaussettes, c'est pas pour les livres, si?
Eh bien figurez-vous que si. Je ne savais pas, ça portait pas ce nom-là, mais je les ai tous mis par terre, un à un, et j'ai eu un tête-à-tête avec chacun d'entre eux en disant « Non, toi tu es trop puissant, toi tu es trop fort. Nietzsche, par exemple, ça dégage. »
Ah, des ruptures, quoi.
Ouais, c'est des vraies ruptures.
C'est pas toi, c'est moi.
Complètement. C'est exactement ça.
Mais alors, une fois que vous les aviez congédiés, ouais, qu'est-ce que vous en faisiez?
Alors, je suis allée les vendre.
Ah, d'accord.
Oui, dans un établissement fort connu du boulevard Saint-Michel. Mmh. Et donc, je me suis trimballée en smart avec des valises de livres. C'était génial.
Des allers-retours en smart.
Oui, avec des valises comme ça de livres. Alors, des valises, des mouchoirs de poche, hein, puisque c'est une voiture extrêmement petite et que les livres étaient très nombreux. Et j'ai ressenti une très grande satisfaction de les renvoyer comme ça, comme on remet un poisson dans une rivière. Mmh.
Oui, c'est ça. C'est là que vous avez remis dans le circuit l'eau et le poisson dans la rivière, c'est ça.
Ouais.
Vous n'avez pas fait un bûcher avec vos livres.
Non, ça laisse de mauvais souvenirs quand même.
Comme une sorte de rituel aussi de rupture, quoi, où on brûle les photos.
Mais c'est vraiment ça, parce que j'avais une relation beaucoup trop passionnelle avec eux, surtout avec les livres de philosophie qui ont été ceux de mon adolescence, de mon début d'âge adulte, avec une période à laquelle j'étais très malheureuse puisque j'étais handicapée à ce moment-là. Et beaucoup d'affres, ça bat sur vous quand vous commencez la vie d'adulte par un handicap et un empêchement physique généralisé, ce qui fait que j'ai développé cette appétence pour les choses de l'esprit. Néanmoins, à un moment, j'ai voulu conjurer le sort et bye bye les livres.
Et alors, il en reste quand même pas mal. Il y a quand même le roman ultime qui est là, hein, c'est Homère, c'est l'Odyssée, hein, c'est le premier de tous les romans quasiment, si on veut. Il y a deux Bibles.
Oui.
Et puis.
Je ne savais même pas. Alors, oui, parce que là, c'est vraiment important.
Il y en a une là,
pour moi.
Et puis une là-bas en
Pléiade. Ah oui, et il y a évidemment, normalement, les écrits apocryphes également, les évangiles apocryphes, hyper importants.
Les évangiles apocryphes, c'est-à-dire, ce sont des évangiles qui n'ont pas été certifiés
par le canon.
Par l'institution.
Absolument. Je suis passionnée par les écritures. Pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de religieux. Pour moi, c'est de l'ordre du mythe, c'est de l'ordre de la philosophie et de la poésie. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, notamment le rapport à l'eau, par exemple, et à la femme, puisque ce que l'on découvre et que l'on ne sait pas, c'est que c'est la femme qui est la première prophétesse. C'est Myriam qui préfigure la première fois, et elle dit cette phrase incroyable.
C'est la femme d'Abraham.
C'est la sœur de Moïse, donc c'est la femme d'Abraham, et... Alors que Moïse est encore petit, c'est elle qui va garder l'esprit de foi, de rébellion, la lutte, la résistance active dans le cœur des femmes, dans le cœur des hommes, par le chant, par l'amour. Et c'est elle qui va monter avec lui sur le mont Sinaï et qui va se fâcher par la suite lorsqu'il détruit la table des lois en disant « Mais Dieu n'a-t-il parlé qu'à Moïse ou a-t-il parlé à Myriam ?» Ah, je trouve que c'est génial. J'adore ça. Et il y a une vraie poésie et une vraie spiritualité laïque, je trouve, qui se dégage des Écritures. Et c'est vraiment important pour moi.
Des Écritures, et justement, la Bible, c'est aussi le berceau de l'Écriture. Au commencement était le Verbe.
Ah bah oui, Enarchéen ou Logos.
Ouais. Ah oui, vous le connaissez
en grec ancien. Oui, oui, quand j'ai dit Enarchéen ou Logos, alors l'accent sera sûrement terrible, mais comme il n'y a aucun grec ancien qui nous écoute, je pense que ça ira parfaitement. Ah oui, j'ai appris toute la première page des Écritures en grec ancien et la première page de la métaphysique d'Aristote, de la physique et de la république de Platon. J'avais des délires chelous à 18 ans.
Mais vous pouvez tenir une conversation en grec ancien,
non,
quoi.
Pas du tout, je l'ai appris par cœur, tout simplement. La première page, parce que je voulais les garder avec moi, tant c'était important.
Et alors, beaucoup de biographies aussi.
Alors, il y a un tropisme vraiment dictateur, hein, ça, on s'en doute quand
oui,
on regarde mes livres.
Ah, oui, il y a Hitler, mais parce que vous avez écrit le livre de référence sur, qui s'appelle Dictatrice.
Les femmes de dictateurs, au début.
Oui, Dictatrice, c'est le roman.
C'est le roman, c'est l'avant-dernier. Mais oui, beaucoup de... Un grand tropisme, on va avoir du Staline, du Mussolini là-haut. Ouais, on va avoir beaucoup de.
Mais alors justement, vous parliez des livres qui vous étouffent et de ceux que vous rencontriez quand vous en aviez beaucoup et de tous ces mots et ces noms qui vous sautaient à la gorge quand vous rentriez chez vous. Mais là, vous êtes cerné par les dictateurs, quoi, par les monstres.
Étrangement, ça me pose pas de problème.
D'accord. Ouais. Ça conjure de les avoir là, enfermés dans les livres.
Ouais, peut-être. Peut-être quelque part.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a beaucoup de philo, mais est-ce que ce sont des livres que vous... Là, on est à côté du canapé. Est-ce que vous prenez parfois Jean-Jacques Rousseau ou Kant pour bouquiner sur le canapé, ou c'est vraiment, il faut que vous soyez à votre table de travail et que vous y remettiez ?
C'est vrai qu'on n'a pas des rendez-vous très fréquents pour filer votre métaphore de la rupture amoureuse ou de la relation amoureuse. Kant, plus aisément. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Kant et Husserl, et c'est vrai que la philosophie allemande, c'est un autre berceau de la pensée, je trouve, occidentale et fascinante. D'ailleurs, on peut comprendre le nazisme en comprenant la philosophie allemande. Et c'est important, je trouve, de mettre les deux en regard l'un avec l'autre. Donc je peux prendre Kant facilement, Rousseau un peu moins. C'est une passion qui m'est passée. Les rêveries du promeneur solitaire m'ont beaucoup accompagnée. Et puis maintenant, un peu moins.
C'est vrai que c'est souvent un truc un peu ado, Jean-Jacques Rousseau.
Complètement.
Il y a une autre lecture, bien sûr. Mais
c'est à cause du fantasme du ruban.
Des confessions.
Des confessions, bien évidemment. Non, maintenant, je me dirige vraiment vers le monde antique. La philosophie et les mémoires de Marc Aurèle, par exemple, qui sont dans mon entrée. C'est le premier livre quand on rentre dans l'appartement et j'ai besoin de les voir. Et quand je pars en voyage ou en signature, je les emporte avec moi.
On va aller dans l'entrée tout de suite, mais d'abord, je voudrais dire un mot sur le tropisme que je repère à propos des chevaux. Vous avez deux livres de Bartabas, et puis il y a un cadre juste à côté de la bibliothèque qui s'appelle « L'art de penser et de guérir toutes les maladies des chevaux ».
C'est du 18e siècle.
Ouais, c'est d'époque.
Et ce qui me plaît, oui, c'est le cadeau d'un ami qui est éditeur, aventurier, écrivain, qui s'appelle Jean-Louis Gouraud, qui était un des fondateurs de Jeune Afrique également, qui m'a offert cela, puisqu'évidemment, nous avons une passion commune pour l'équitation. Puisqu'avant d'écrire, j'étais en équipe de France junior de saut d'obstacles. C'est ainsi que je me suis blessée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'art de penser et de guérir toutes les maladies des chevaux, penser avec un E, ce qui fait qu'on pense les chevaux aussi. Ah, oui. Et ça, je trouve ça absolument fou parce qu'en effet, le cheval, c'est l'animal psychopompe dans toutes les religions, dans toutes les mythologies. C'est celui donc qui transporte les âmes. C'est celui qui transporte également, c'est le Bourra qui transporte le prophète Mahomet dans sa grande nuit vers Al-Aqsa, dans le Coran. Et j'aime, le rapport au cheval, pour moi, est complètement mythologique et métaphysique. J'ai écrit un livre dessus qui s'appelait Corpus Equi. Et Bartabas, c'est de l'artiste complet, c'est un ami. J'ai la chance de pouvoir assister souvent à ses répétitions. Et c'est un génie pour moi.
Il y a un livre ancien qui traîne juste à côté, là. C'est quoi ? Audrey, la dictatrice.
Ouais, bah, il y a un livre en 1900.
Quel titre ouais. que vous avez donné à votre avant-dernier ouais. roman.
Et c'est un livre absolument méconnu, alors qu'il raconte une histoire tout à fait autre. Mais en 1900, alors je crois 1902, ce type a imaginé déjà une femme qui prendrait le pouvoir. Alors en fait, elle prend un pouvoir politique, c'est très Troisième République. Mais c'est effrayant puisqu'elle n'a rien de dictatorial, mais pour un homme de l'époque, imaginez
le simple fait qu'une femme prenne le pouvoir, ça...
ça semblait extrêmement effrayant déjà. Donc...
ah, puis juste à côté, il y a le trophée de Saint-Maur en poche que vous avez mis sur la cheminée.
C'est vrai.
C'est énorme de recevoir un prix, quel que soit le prix d'ailleurs,
oui,
quand on est
vrai.
Écrivain.
C'est vrai, mais surtout celui-ci, je le trouve absolument charmant parce que...
Il est très sobre.
Alors, il est très sobre. C'est remis par Gérard Collard, le libraire, qui est extrêmement engagé. Qui est, j'ai l'impression, de tous les combats pour le livre. Chacun pense ce qu'il veut de lui, mais moi, j'aime les gens entiers comme cela, les gens fidèles qui défendent les auteurs, et c'est un prix pour le livre de poche. Et donc, qu'est-ce que ça représente ? Le livre de poche, c'est extrêmement populaire. Ce salon à Saint-Maur-en-Poche, tous les mois de juin, est extrêmement populaire, et c'est la possibilité d'amener des gens au livre qui ne viendraient pas autrement. On sort un peu de l'entre-soi avec ça.
On revient dans l'entrée, et parce qu'il y a la salle de bain aussi juste à côté, j'ai envie de voir ça. Donc là, on est dans un petit couloir, juste devant la porte d'entrée.
Hein. Un petit couloir, comme vous y allez, il a des dimensions tout à fait honorables, ce couloir.
Oui, d'accord, mais j'ai visité beaucoup de bibliothèques, il y a des immenses couloirs pleins de livres. Et les livres sont parfois que dans le couloir et dans la pénombre. C'est Daniel Piccoli notamment qui a un couloir comme ça, dans la pénombre, et il n'y a pas de lumière. Exprès, parce qu'il veut aller chercher ses livres à la lampe de poche. C'est rigolo, non ?
J'aime bien.
Et alors, donc, là, on est dans votre grand couloir. Et quand on entre dans l'appartement, dans ce couloir, donc, il y a ce livre qui nous fait face. C'est donc votre livre...
De Marc Aurèle, Les pensées de Marc Aurèle. C'est une vieille reliure du 19e siècle. Ah, j'invite tout le monde véritablement à lire ce livre, à découvrir ses pensées. Le monde antique, le monde grec, quelle grandeur, quelle puissance de sagesse. De positionnement. Et à nouveau, je suis fascinée par la question du pouvoir, vous le savez. Et quand on parle d'un empereur tel que celui-là, mais un empereur philosophe, on est vraiment dans le despote éclairé qui va être là aussi un des grands idéaux de l'Allemagne un peu plus tard. Et je ne m'en lasse pas et je suis chaque fois émerveillée par le savoir de cet homme.
Mais c'est devenu un gris-gris parce que vous m'avez dit qu'il fallait absolument qu'il soit dans l'entrée, que c'est la première chose que vous voyez quand vous entrez chez vous.
Ça me fait du bien quand je rentre.
Et vous le touchez quand vous passez ?
Non, quand même pas. Je ne suis pas dans ce fétichisme-là. On va y aller doucement. Juste. J'aime bien. C'est une coquetterie personnelle. La vie parisienne et le monde parisien est parfois fait quand même de beaucoup de superficialité, d'agressivité, de rapidité, d'immédiateté aussi. Et en rentrant chez moi, de voir quelque chose comme ça d'assez éternel, qui traverse les âges, je trouve ça très rassurant. Bon, mais à côté, il y a les peanuts aussi de Charles Schulz.
Oui, il y a de tout. Voilà. Pour rester sur Marc Aurèle, c'est un livre, là, je vois, du 19e, genre chiné chez un bouquiniste. Ouais. C'est quoi l'histoire de cette édition en particulier ? Pourquoi, où est-ce que vous l'avez eu ? On vous l'a offert ?
Non, je l'ai découvert, en effet, en arrivant à Paris pour mon hippocagne. Je me baladais beaucoup chez les bouquinistes et, en effet, je l'ai trouvé comme ça. Je l'ai pris sans trop savoir pourquoi. Je dois vous avouer que je ne savais même pas qui était Marc Aurèle en arrivant, puisque après avoir fait beaucoup de sport et avoir été candidat libre au bac à Biarritz, où on passe plus de temps à la plage que dans les bibliothèques quand même, j'en avais aucune idée, et alors ça a été le début d'une grande histoire d'amour.
Et alors donc, j'ai dit c'est un livre 19e, et vous l'avez stabiloté, quoi.
Rien à foutre.
Ouais. Ah ouais. Blasphème, non. Direct.
Totalement, mais il est trop important, et de toute façon, il est à moi. Et personne ne l'aura jamais.
vous l'emmènerez avec vous.
Oui.
Et est-ce que vous en connaissez des par cœur, des pensées, ou en tout cas la substance de certaines? Est-ce qu'il y a des choses au quotidien qui vous reviennent et vous savez que c'est Marc Aurel qui vous l'a enseigné?
Oui. Mais c'est entre lui et moi.
Ah d'accord. Merci pour les conseils partagés. Ça, c'est... faut lire vos livres.
Juste à côté de lui, il y a Khalil Gibran, qui est quelqu'un de très important aussi.
Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le.
Alors, c'est un recueil avec des calligraphies, mais ce n'est pas son livre le plus important. On pensera au prophète, au jardin du prophète, Le sable et l'écume, qui a été une grande source d'inspiration pour mon dernier
voilà,
livre,
c'est ce que j'allais dire.
Le maître de l'océan. En effet, je suis vraiment l'héritier de cette philosophie-là. On pourrait dire, si c'était de la peinture, je le qualifierais d'art naïf, quelque part. Pour moi, c'est la pensée de l'Orient, de l'Extrême-Orient, est extrêmement imagée, assez enfantine parfois, et pourtant, elle abrite une poésie qui est dingue.
Il y a un tout petit livre ancien, là, qui doit faire 8 cm sur 5, de Théophile Gautier, Émaux et Camées.
Ouais. C'est sur les pierres et les camées, et l'art des pierreries et des camées. Et c'est génial, parce que Théophile Gautier, on le connaît pour beaucoup d'autres choses, et j'aime en fait aller lire ce qu'ils ont fait, les pas de côté, en fait, les trucs un peu barrés de ces auteurs classiques.
Mais celui-ci, vous l'avez acheté aussi parce que le livre est vraiment tout mignon, quoi.
Mais oui, bah oui.
8 cm sur 5, là, il est
c'est une reliure
quoi.
Du 19e aussi. J'ai une vraie passion pour ces vieilles reliures du 19e dont les couvertures ressemblent à du marbre.
Et alors, on est juste en fait à côté de la salle de bain où il y a aussi des livres. Et alors, comment vous choisissez les élus?
Des toilettes, oui. Alors en effet, ceux qui arrivent dans la bibliothèque au-dessus des toilettes, il y a une sorte d'élection suprême, hein, bien sûr. Alors c'est quand même pour beaucoup... Alors c'est le saint des saints, ici. Peut-être parce que c'est ceux où il y a le plus de lumière. C'est vraiment les livres de philosophie, les livres d'astronomie, qui sont un peu mes préférés, qui m'ont accompagné, pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse.
Il y a même des beaux livres, il y a Jean-Léon Gérôme.
Que j'adore.
Un peu pompier.
Mais oui, mais j'adore, c'est le 19e, et c'est, pour moi c'est génial, Jean-Léon Gérôme.
Des grandes peintures de scènes historiques.
Ah ouais, j'adore. Et justement, il y a quelque chose de très Delacroix chez Jean-Léon Gérôme, puisqu'il va lui aussi peindre beaucoup de choses du Moyen-Orient, avec cette vision complètement imagée et imaginée.
Ouais,
avec absolument Friné et l'aéropage, de beaucoup de femmes au harem, beaucoup de tapis d'Orient. Que j'aime beaucoup. Et alors, on va trouver Descartes et Kant, essentiellement. Aristote aussi. Beaucoup. Du Jean Rostand.
Ah oui, c'est quoi ça? Carnet d'un biologiste. C'est le seul livre qui nous fait face.
Ouais, je l'aime
de Jean
beaucoup.
Rostand.
J'aime beaucoup parce que, un petit peu à la manière de Marc Aurèle, ce sont pas les travaux qu'on connaît le plus de lui. Il perçoit, ce sont c'est une sorte de philosophie, ce sont des courtes maximes inspirées de sa vision de biologiste de l'univers. Il y a quelque chose d'absolument charmant et de très beau, là aussi. Il y a une vraie poésie de ses débuts de la science biologique, comme ça, du début du siècle, puisqu'il l'a écrit très tôt, dans la première moitié du XXe siècle. Et voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour cette appétence pour le monde et la compréhension des choses.
Alors, je ne sais pas si on entend, mais on enregistre en semaine, hein, on n'est pas dimanche, et on entend des enfants qui jouent, puisque vous êtes à côté d'une école.
Oui, je donne sur une école et c'est génial.
Fait exprès ou d'accord?
Non, alors c'est fait exprès. J'ai...
Vous aimez ça, le bah bruit
ouais.
de la cour.
Alors, quand j'ai en effet fait l'acquisition de cet appartement, l'agent immobilier m'a dit que ça détournait beaucoup de personnes.
Oui.
Il y avait beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas. Alors, voyons le cynisme, c'est-à-dire être sur un boulevard avec plein de bagnoles, ça ne pose pas de problème, mais une école où on va voir des choupis qui crient leur joie, ça, c'est très dérangeant.
Mais ça ne réveille pas des angoisses d'école et tout ça, non?
Maintenant, c'est beau.
Il joue à la marelle.
Oui, alors parfois, c'est quand même assez génial parce qu'on a un professeur ou un pion qui arrive complètement excédé, qui n'en peut plus et qui pousse des hurlements. « Ah, mais ça suffit !» Et moi, ça m'éclate en haut parce que je comprends cet homme et je comprends qu'il n'en peut plus systématiquement. Et deux secondes après, il en prend un dans les bras et finalement, il repart de jouer. Et j'admire cet homme, j'admire sa patience.
Justement, puisqu'on parle de l'époque de l'école, je vois tout en haut là un exemplaire de l'attrape-cœur de ouais. Salinger.
Bah oui.
Vous qui lisez peu de romans, ça c'est quand même un des romans cultes.
Ouais.
Quoi.
Ouais, non,
j'avais lu jeune.
Oui, évidemment.
Donc, c'est l'histoire de ce lycéen qui fait une fugue dans New York pendant quelques jours et on le suit dans ses pérégrinations.
Ouais. Oui, en arrivant à Paris, j'ai lu quand même quelques romans. C'est juste qu'en effet, le roman contemporain... C'est comme si l'univers fictionnel d'un auteur m'emportait beaucoup trop loin et faisait jaillir beaucoup d'autres univers parallèles. Vous voyez, un roman, pour moi, c'est un univers quantique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'univers qui m'est présenté sur le papier, il y a tous les univers parallèles que je m'imagine en même temps, et c'est trop fort, en fait.
Et Salinger, L'attrape-cœur, vous le relisez ?
Je ne l'ai pas relu depuis très longtemps. Non, il est cristallisé dans ma mémoire. J'ai du mal à relire les romans. Y a quelque chose comme ça, de l'ordre de retourner avec un ex. On est toujours dans cette métaphore, hein, décidément. j'ai beaucoup de mal. Ouais.
Merci beaucoup, Diane Ducré.
Merci.
À bientôt.
Retour en studio et je rappelle, Le Maître de l'Océan, c'est le titre du nouveau livre de Diane Ducré chez Flammarion. Joseph Denise, vous êtes toujours avec nous, vous c'est Je suis les ténèbres chez Julliard. Comment sont rangés vos livres à Florence ? C'est dans la cuisine aussi ou pas ?
Non, pas encore. Mais bon, comme toutes les grosses bibliothèques, elles ont tendance un peu à s'éparpiller un peu partout. Il y a des livres dans l'entrée, il y a des livres dans ma chambre, il y a des livres dans le salon, bien entendu. Et ça dépend des moments, mais des fois, quand je suis en pleine période de recherche, vraiment, ça s'étale dramatiquement, je dirais.
Ils sont classés comment ?
Ils sont classés,
d'ailleurs ?
Ils sont vaguement classés. Je lis en trois langues, italien, anglais, français. Donc, il y a des zones comme ça, comment dire. Enfin, ils ne sont pas vraiment classés, ouais. ils sont empilés.
Plutôt les anglais, plutôt les français, plutôt les
voilà.
italiens.
Voilà, et puis bon, il y a des zones. C'est plutôt les classiques français, plutôt la SF fantastique, où je me permets de faire des doubles rangées, voire triples. poésie, enfin voilà. Mais souvent, ça déborde, ça se mélange. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est... Je pense qu'une bibliothèque doit être vivante et que les choses à l'intérieur de soi, d'ailleurs, doivent se mélanger.
Et vous avez tout Conrad, tout Lovecraft. Quand vous écrivez un roman comme ça, très inspiré d'autres écrivains, est-ce que vous allez vous refaites toute la collection à neuf ?
Eh bien, en fait, non. C'est peut-être surprenant. Mais en tout cas, pour l'écriture de Je suis les ténèbres, je me suis bien gardé d'aller lire Lovecraft, par exemple. Même si j'ai bien sûr...
Conrad, oui. Parce qu'on sent que le style, il y a une sorte d'hommage aussi dans la manière de dire.
Ben oui. Enfin, forcément, quand on dérange un monument de la littérature tel que Conrad, bon, ben, il faut quand même se mettre ses meilleurs habits.
Non, mais c'est vrai, il y a le même rythme.
Vous trouvez ? Écoutez, ben, merci.
Mais est-ce que justement, ça vous contamine quand vous lisez des grands écrivains comme ça ? Est-ce que vous essayez de vous en détacher aussi ? Ou est-ce que vous vous laissez faire et guider par les grandes voies ?
Ben forcément, vous parlez de rythme, c'est vraiment le rythme qui est important. Je pense que c'est le rythme. Après, on est toujours emporté par quelque chose de très personnel, qu'on recherche inconsciemment, hein, enfin, qui tombe sous la plume, je dirais, qui apparaît sous la plume.
Et on va la remplir encore un peu, cette bibliothèque. Nous partons dans la librairie de Stanislas Rigaud dans un instant.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est livre.
La Voix est livre avec Joseph Denise aujourd'hui pour Je suis les ténèbres, son nouveau roman génial chez Julliard. Il est l'heure de rejoindre Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement de Paris. Allons-y. Bonjour Stan.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir.
Merci à vous.
Qu'est-ce qu'on a alors ? Deux coups de cœur aujourd'hui qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Ah, un petit peu quand même.
Ah bon ?
Oui, un
petit
peu quand même.
Il y a un polar et de la cuisine.
Voilà, mais le Gauthier Battistella, donc chef chez Grasset qui sort, a quand même une teneur un peu policière, parce qu'il y a énormément de suspense. Alors, même si ce n'est pas un polar. Alors, le chef va nous raconter donc l'histoire, en fait, d'un chef 3 étoiles qui, alors que le livre s'ouvre, se suicide. Et donc, on va suivre forcément ce qui se passe après, c'est-à-dire la guerre de succession, les enjeux, les intérêts, le guide Michelin, les autres chefs, tout ce qui fait, effectivement... voilà l'espèce de gros scandale, de cette grosse surprise de cet homme qui du jour au lendemain décide de se suicider. Et d'autant plus que la surprise est d'autant plus grande qu'il était en train de tourner un reportage sur sa vie avec Netflix. En fait. Et donc le livre va s'ouvrir en deux dès l'ouverture, puisqu'il y a le suicide. Et d'un côté, on va suivre l'après. Grande scène d'enterrement. Alors, il manie très bien, Gauthier Battistella manie très bien la fiction de la non-fiction. Il y a des grands chefs extrêmement connus, la scène de l'enterrement est mémorable. Voilà. Et en même temps, on va remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'il a enregistré pour le reportage justement l'histoire de sa vie. Et donc, il va nous raconter l'histoire de sa vie. Et c'est le destin d'un chef. Et c'est le destin surtout d'une génération. C'est-à-dire ces chefs qui ont été élevés notamment par leur grand-mère, ces chefs qui ont traversé, qui sont nés très pauvres et qui se sont faits au travers de la cuisine, notamment il y a la figure de la mère Brasier. Enfin bon, ça, donc c'est à la fois une histoire de l'évolution de la cuisine, du suspense pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui va se passer après. En fait, ça se dévore d'une traite et c'est en ça où effectivement, dans le côté suspense énigme, il y a un petit côté polar quand même.
Et ça commence, la première phrase, c'est « Tout le monde était au petit blanc ».
Est-ce que, donc, c'est pas
est-ce que ça donne fin,
phrase,
ce genre de roman? Alors, parce que j'imagine qu'on parle beaucoup de gastronomie.
Alors, ça donne fin. Ça donne fin, c'est effectivement ça. Et c'est souvent, en plus, malgré le propos d'ouverture un peu sévère, il peut y avoir des passages assez drôles. Et toute la dimension, notamment au travers du prisme du guide, parce que l'auteur a travaillé pour le guide Michelin pendant de nombreuses années. Et donc, il y a un petit côté coulisse qui est absolument réjouissant.
Autre roman avec sa petite étiquette lue, approuvée, avec le cœur au milieu, c'est Jolie Chose de Janelle Brown.
Aux éditions Equinox, les arènes. Alors, c'est roman américain. Donc là, on est dans le polar. Alors, on est vraiment dans le polar dit, on va dire, psychologique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hélico, de course-poursuite, de fusil à pompe. Mais par contre, c'est un grand piège dans lequel on va tomber avec plaisir. Et d'autant plus avec plaisir que ce piège, on ne le voit pas. C'est-à-dire que le point de départ est assez simple. C'est des histoires d'arnaqueuses qui, avec son compagnon, cambriole des gens riches, des jeunes héritiers qui postent notamment sur Instagram et qui s'exhibent là-dessus.
Jeunesse dorée et tout.
Voilà, la jeunesse dorée. Le truc, c'est qu'en fait, avec son compagnon, il cambriole, mais il ponctionne. C'est-à-dire qu'en fait, le gars a 10 montres de luxe, ils en prennent une. Il s'intéresse notamment aussi beaucoup au mobilier. Résultat, en fait, souvent les gars ne portent pas plainte, parce que des fois, ils ne s'en rendent même pas compte. Et deux, quand ils s'en rendent compte, bon, il n'y a pas de quoi déclencher une chasse à l'homme, en fait. Donc, ils survivent comme ça. Si ce n'est que forcément, pour lancer le roman, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la mère de l'héroïne fait une retombe dans le cancer, donc va avoir des frais médicaux extrêmement lourds. On est aux États-Unis. Et donc, il va falloir beaucoup d'argent. Elle va tenter forcément un coup beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe que d'habitude. Et forcément, c'est le début des ennuis, et heureusement pour nous. Voilà. Donc, c'est un roman, comment dire, c'est dans la lignée de choses comme Les Apparences, par exemple, ou Avant d'aller dormir, Watson. On est sur vraiment ce roman, il s'installe, personnage hyper attachant, c'est écrit de manière très fluide. Et puis, progressivement, le coup se met en place. Et à un moment, vous allez prendre sur la figure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un premier retournement et c'est terminé, on ne lâche plus.
Ah, il sait faire le Stan. Merci beaucoup. Alors, on a
merci
dit,
Nicolas.
Ça, c'est Jolie Chose.
Jolie Chose de Janelle
Brown. C'est aux éditions Equinox. Et puis Chef de Gauthier Battistella. Ça, c'est chez Grasset. Merci beaucoup, Stan.
Merci, Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Joseph Denise pour Je suis les ténèbres chez Julliard, son nouveau roman. Et Héloïse Goy nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Vous m'avez dit, alors j'explique quand même, d'habitude vous me donnez une feuille avec le lancement en gras, c'est-à-dire comment je vous présente et le nom de l'album, etc. Et puis il y a la suite du texte. Mais là, vous m'avez découpé à la main d'ailleurs, juste le lancement pour pas que je voie votre texte. Et donc le lancement, vous me dites de dire que vous nous parlez de littérature jeunesse, ça on sait, mais aussi de gastronomie aujourd'hui avec cet album illustré qui s'intitule « Mangeons bien, mangeons malin ».
Absolument Nicolas, je vais tester vos connaissances culinaires c'est aujourd'hui, c'est pour ça, dans l'histoire même, vous allez voir. Alors j'espère que vous
toujours
avez faim.
Des quiz avec vous.
Mais oui, il faut vous faire participer un petit peu. Alors j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va parler d'alimentation avec ce livre qui est signé par l'autrice, illustratrice polonaise Ola Wolnicka. Ponchinka, pardon pour l'accent, je ne parle pas polonais. Alors on y apprend plein de choses passionnantes, notamment sur ce que les hommes ont mangé au fil de l'histoire. On va commencer le quiz. Est-ce que vous savez ce que dégustaient les Romains de l'Antiquité lors de leur fameux banquet, leur sénat ?
Du raisin ?
Alors, c'est exactement l'image qu'on a souvent, le Romain à moitié allongé avec son raisin, mais il mangeait bien d'autres choses.
Des abats.
Pas très loin. Bah oui, je crois que c'est ça. Écoutez, en général, le Sénat commençait par des hors-d'œuvre à base d'œufs, jusque-là tout va bien. Ouais. Mais ensuite, il y avait au moins 5 plats principaux, composés par exemple de cervelle de paon, de langue de flamand et de cigogne. C'est des abats,
génial.
Ça
génial, ça donne faim en tout cas.
Ça donne envie. Une autre petite anecdote délicieuse, pour pouvoir manger les quantités astronomiques de ces banquets qui duraient des heures, eh bien les Romains allaient souvent se faire vomir entre les plats.
C'est les orgies, ça.
Oui, en tout cas, c'était des banquets. En fait, l'idée, c'était de finir son assiette pour ne surtout pas vexer son hôte qui vous offrait ses plats divins. Alors, côté histoire, on apprend aussi dans ce livre que les couverts ne sont apparus qu'au XVIIIe siècle et que c'est Louis XIV qui a répandu l'usage du couteau de table. Avant, on mangeait avec les mains, notamment les Romains. Et puis, dans ce livre, il y a aussi toute une partie sur les conséquences de l'alimentation sur notre santé. Alors ça, c'est pas nouveau, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on a découvert que notre santé dépendait très étroitement de ce qu'on mangeait. Au 5e siècle avant notre ère, le médecin grec Hippocrate disait déjà, je cite, « que ton alimentation soit ta première médecine ». Alors ça, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et du coup, l'auteur polonaise revient sur les aliments à privilégier à la place des sodas sucrés ou autres types de junk food qui nous bouchent les artères. À la place, elle nous parle des super aliments. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Pas du tout.
Alors, c'est des aliments qui, comme leur nom l'indique, ont des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils disposent d'actions particulièrement bénéfiques sur l'organisme. Par exemple, l'ail a le pouvoir de combattre les virus et les bactéries. Je ne sais pas si c'est efficace contre eux. Et les vampires. Je ne sais pas si l'ail est efficace contre le Covid-19. Je ne sais pas si ça a été prouvé. Et si vous avez un rhume, n'hésitez pas à manger des oignons. L'oignon, c'est aussi un excellent allié contre
le rhume. On n'est pas obligé de croquer dedans, cru.
Alors, je crois que c'est meilleur cru. Contre les microbes.
Puis je vais prendre du Doliprane.
Mais dans les autres super aliments, il y a des choses un petit peu plus savoureuses comme le miel, la canneberge ou les noix qui disposent aussi de pouvoirs magiques. Et parce que aussi, vous le savez, notre alimentation peut aussi avoir de lourdes conséquences sur le sort de notre planète. Mmh. Eh bien, l'auteur nous donne des exemples d'aliments à éviter comme l'huile de palme.
Alors, bien sûr, pour la déforestation, c'est
absolument.
Ça
absolument. Près de la moitié de l'huile utilisée dans le monde aujourd'hui provient des palmiers à huile.
Bien, d'accord.
Et le problème, vous le disiez, c'est que pour faire de la place à ces plantations, eh bien, on détruit les forêts tropicales. Et ce sont justement ces forêts qui permettent de ralentir le réchauffement climatique. Conclusion, si on veut que la planète reprenne un peu de ses couleurs, il faut éviter de manger, par exemple, des chips ou des barres chocolatées. Un petit peu schématique, mais on voit l'idée. Alors voilà, je m'arrête là. Vous l'avez compris, cet album illustré, il grouille d'informations passionnantes sur l'alimentation avec un grand A. C'est un livre malin et instructif et qui donne faim, sauf quand il nous parle de cervelle de pont.
Mangeons bien, mangeons malin chez Casterman de...
Hola, Voldanka Pochinka.
Bon appétit. Et vous, Joseph Denise, est-ce que vous avez un roman qui vous a particulièrement marqué ou une lecture quand vous étiez enfant ?
Bien oui, il y a un roman en particulier qui est, en fait, autant que je me souvienne, le premier roman que j'ai lu et vraiment apprécié, sont Les Voyages de Gulliver.
Ah oui, de Swift.
De Swift, de Jonathan Swift, oui. Qui est une lecture de jeunesse, mais pas forcément, en fait. C'est un roman, bien entendu, qu'on reprend par la suite. Et,
ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Parce que justement, c'est ce que je disais en début d'émission, il y a cet imaginaire incroyable. Quoi.
Oui, bah, tout à fait. Ouais. C'est du fantastique, d'une certaine façon. Toutes ces aventures dans ces univers, je me souviens...
On rappelle, il y a les Lilliputiens, des êtres tout petits, etc.
Il y a cette cité où les individus sont éternels aussi, qui m'avait terrifié, je me souviens. Où quand les personnes sont trop âgées pour s'occuper d'elles-mêmes, et ben simplement on les enferme dans une pièce ou dans un endroit où elles pourrissent sur place, mais en restant vivantes. Je me souviens que ça m'avait terrifié étant enfant. Et en fait, donc on lit ça quand on est enfant et face à moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ensuite, par la suite, on apprend que Jonathan Swift, dans sa vieillesse, a été frappé d'Alzheimer, avait une maladie dégénérative. Et ça prend une toute autre saveur, un peu amère dans ce cas-là, mais bon, c'est le genre de roman qu'on ne cesse jamais de lire. Quoi.
Et à cette époque, vous vous êtes dit, j'aimerais bien faire ça, écrire des histoires comme ça, en inventer ?
Ah non. Non, pas, à l'époque, je dessinais beaucoup, mais j'écrivais pas encore.
C'est venu à quel âge ?
C'est venu vers l'âge de 16-17 ans, donc je ne sais pas si c'est tôt ou tard, mais... Il y a un moment où ma passion pour la littérature a supplanté tout le reste.
Parce que quand on parle du diable, votre précédent, c'était aussi votre premier roman, non ?
C'était mon premier roman français.
D'accord.
Auparavant, j'avais publié deux courts romans en italien, en Italie.
Parce que sauf votre respect, vous n'avez pas l'air d'avoir tout à fait 17 ans. Vous en avez plus une trentaine, quoi. Donc,
c'est gentil. C'est gentil. Non, mais
je veux dire, ça a mis du temps avant que vous décidiez à proposer à un éditeur et tout ça.
Ça a mis du temps, quand on parle du diable, m'a pris pas mal de temps. L'écriture m'a pris dans les 4-5 ans. Bon, j'ai pas fait que ça pendant cette période, mais c'est un roman qui a longuement mûri. Ce qui a pris du temps, c'est d'arriver au français. J'ai d'abord passé par l'italien, en fait ma deuxième langue, non, ma deuxième langue maternelle, ma deuxième langue, pour ensuite revenir au français.
Et à quel âge vous avez publié en italien ?
Mon premier roman a été publié en 2009.
D'accord.
Donc, je suis de 1971, on peut le dire. Donc j'avais
40 ans, quoi.
À peu près.
Et pourquoi vous n'avez pas fait traduire simplement, vous n'avez pas proposé une version française de votre roman publié en italien au français, quoi ?
Ben, parce que je l'avais déjà écrit en italien.
D'accord.
Écrire autre chose, on évolue. On évolue et écrire prend du temps. Et bon, plutôt que de traduire quelque chose qui ne me correspondait plus vraiment, enfin, qui correspondait à moi-même dans le passé, je préférais écrire quelque chose de nouveau.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'écrire en français pour votre précédent roman ?
Il y a un moment quand on vit très longtemps à l'étranger où on a un peu peur de perdre sa langue. Et donc je me souviens de cette sensation, je me suis dit, mais mince alors, je suis quand même français. Je suis quand même français. Et j'avais vraiment envie de me plonger dans ma langue.
Magnifique. Et nous, on se plonge dans Je suis les ténèbres, magnifique roman chez Julliard. Merci beaucoup, Joseph Denise.
Ben merci à vous, merci de m'avoir invité.
Et bon retour en Italie.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.